franceinter.fr.
On gratte, on pioche, on parle aux plantes avec vous. Bonjour Alain Baraton.
Et on évite de rester au ras des pâquerettes. J'aime bien cette petite expression.
Comme le disait Jean-Michel Golinski il y a quelques minutes. On commence, comme chaque samedi, avec une promenade. Et aujourd'hui, vous nous emmenez au château de Valmeur. Ses origines remontent à 1525.
Eh oui, c'est en effet cette année-là que le domaine fut bâti dans le plus pur style italien. Le domaine devient ensuite la propriété de Thomas Bonneau, un conseiller de Louis XIII. Alors cet homme va considérablement modifier le parc en construisant la terrasse haute, les communs et le pavillon du Petit Valmeur. Alors pour faire simple, eh bien il a construit tout ce qui se visite aujourd'hui et qui a heureusement résisté au terrible incendie de 1948 qui a malheureusement détruit le château principal.
La chapelle troglodyte, elle, se visite aussi.
C'est une merveille. Elle fut bénie par l'évêque d'Autun en 1529 et consacrée en 1535. Et donc oui, elle se visite. Mais si je vous invite aujourd'hui justement à découvrir Valmeur, c'est surtout, vous vous en doutez, pour vous parler jardin. Un jardin qui a fait la réputation du site et qui est en fait un potager, l'un des plus beaux de France, et je pèse mes mots. Il est inspiré de ceux de la Renaissance. Il est composé, et c'est classique, de quatre carrés bordés de buis, eux-mêmes divisés en quatre parcelles. Au centre, bien sûr, le petit bassin circulaire. L'ensemble représente toutefois un hectare et est entouré par un mur d'enceinte palissé d'arbres fruitiers.
Et ce jardin est plus qu'un potager, parce que c'est aussi un conservatoire.
Et oui, dans ce lieu, il est cultivé plus de 1000 variétés de fruits et légumes sous l'œil professionnel d'Alix de Saint-Venant, une propriétaire qui est aussi paysagiste. Pardonnez-moi. Conservatrice, botaniste et jardinière. Cette femme a vraiment mille et un talents. C'est elle qui a eu l'idée d'aménager sur les terrasses le potager. C'est elle aussi qui a eu l'idée de mettre, et là je vais peut-être vous surprendre, et oui, dans des abris, dans les congélateurs, les graines de milliers de plantes, je crois qu'il y en a 3000, pour éviter bien qu'un jour disparaissent à tout jamais, et bien tous ces végétaux vivriers qui ont nourri justement l'humanité. Vous voyez, donc à Valmeur, on regarde, on profite, mais on pense également à l'avenir.
À l'avenir. Aujourd'hui même, à 17h30, le château de Valmeur accueille les lauréats du concours international de piano junior Brin d'Herbe.
Oui, 6 pianistes qui devraient en toute logique se succéder sur la terrasse du château. Je dis en toute logique, car je crois que malheureusement, la météo va créer quelques désordres, mais je sais que Alix...
Semble-t-il, mais ça pourrait n'être que passager. Hein.
Oui, et Alix est une femme qui sait s'organiser, et je suis persuadé qu'elle a déjà prévu une solution de repli en cas d'intempérie, je l'espère de tout cœur. Mais parce qu'il faut vraiment l'endroit que moi j'ai la chance de bien connaître Valmeur, c'est vraiment un endroit délicieux. Et l'idée de pouvoir assister à un concert musical sur la terrasse, ça doit être quelque chose de véritablement magique. Les amateurs de photographie, et je sais que vous en êtes Hélène, eh bien apprécieront aussi l'exposition consacrée à Valmeur il y a 100 ans. Et oui, des photos qui vous permettent eh bien tout simplement de remonter dans le temps. Alors on résume. Le château de Valmeur est inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques et il est bien sûr classé jardin remarquable. Il est dans une région de France que j'apprécie profondément, près du village de Chancey, en Indre-et-Loire.
Ne vous enfuyez pas si loin, Alain Baraton, c'est l'heure de passer au grill des questions des auditeurs.
Avec plaisir, mais c'était magnifique.
J'ai une première question, celle de Charlotte, qui a beau arroser son jardin, son gazon ressemble à de la paille. Que doit-elle faire?
Eh bien, admettons, Hélène, c'est une comparaison, que vous ayez très soif. Eh bien, je crois qu'il est préférable que vous buviez régulièrement en petite quantité, plutôt que je mette à vos côtés, des dizaines de litres d'eau qui ne serviraient à rien. Eh bien, on a trop tendance à croire qu'en inondant le gazon, il va reverdir. C'est une erreur, car le gazon a des petites racines et il ne peut absorber que ce qui est possible, bien évidemment. Donc, que se passe-t-il? Le gazon est jauni à cause du temps qu'il fait actuellement, et nous sommes en juillet, c'est normal. Alors, on arrose copieusement, mais on met beaucoup trop d'eau qui est malheureusement gâchée, qui repart dans les profondeurs de la terre, mieux qui est évaporée et qui retourne, j'allais dire, dans les nuées, et le gazon ne peut pas en profiter. Donc quand on est en été, qu'on a un gazon qui est sec et qu'on veut lui redonner de la verdeur, on arrose régulièrement, peu, mais tous les jours, de préférence le matin ou le soir, certainement pas en plein soleil pour éviter le gaspillage, mais il faut donc arroser régulièrement et ne pas arroser trop là parce que ça ne sert absolument à rien.
Bah, il tombe bien votre conseil parce que la France est touchée en grande partie par une sécheresse et en ce moment il y a 81 départements qui sont concernés, il y a des restrictions d'eau qui ont été mises en place par arrêté préfectoraux dans une bonne soixantaine de départements. Donc on n'arrose pas beaucoup,
ça tombe très bien,
on ne gâche pas.
Et on en profite d'ailleurs pour réfléchir sur les collecteurs d'eau, il est toujours un peu navrant de constater qu'il y a de l'eau du ciel qui part dans les égouts. On en profite pour installer des gouttières, des réservoirs. On réfléchit si on peut creuser un puits. On se renseigne aussi pour savoir si on a le droit d'utiliser l'eau d'un puits lorsque le préfet a ordonné l'arrêt des arrosages, etc., etc. C'est très complexe le droit en termes d'eau.
Question de Louise à présent. Est-il possible d'avoir sur son balcon un galant de nuit ?
C'est beau, hein ? Est-ce que vous aimeriez, vous, avoir un galant de nuit sur votre balcon ?
Pourquoi pas ? C'est
tentant. Je l'imagine, beau, brun, avec une guitare. Mais là, nous parlons de plantes, bien évidemment, qu'on appelle également le jasmin de nuit et le lilas de nuit. Alors, si on l'appelle ainsi, vous vous en doutez, c'est que la plante fleurit la nuit. Eh bien oui, il y a des plantes qui fleurissent la nuit. Et si elle fleurit la nuit, ce n'est pas pour rien, ce n'est pas pour faire plaisir aux noctambules, vous vous en doutez. C'est simplement pour permettre à l'insecte pollinisateur nocturne, eh bien, de venir justement assumer ses fonctions. Alors, le galant de nuit est une plante originaire d'Amérique du Sud. C'est un arbuste à feuilles persistantes qui est assez beau, qui est assez agréable et qui, alors que c'était pas une plante grimpante, et qui se plaît parfaitement en pot. Il est relativement rustique, beaucoup plus qu'on ne pourrait croire d'ailleurs, parce qu'il résiste à des températures de l'ordre, je parle de température basse, de moins 3 à moins 7, moins 8 degrés. Donc, on peut effectivement avoir des galants de nuit sur son balcon, on peut les mettre au soleil, voire même à la mi-ombre. Ce sont donc des plantes qui sont relativement jolies, mais attention, le côté de la senteur, car cela sent bon, eh bien parfois ça sent plus ou moins bon, parce que la plante est un peu capricieuse. En fonction de la terre et de l'exposition, elle sent plus ou moins fort, mais c'est vrai que donc pour répondre à la question, oui, il est donc possible d'avoir, mesdames, un galant de nuit sur votre balcon.
Alors on va parler argent peut-être, à présent, avec cette question de Muriel. Les branches d'un vieux chêne touche des fils électriques. Elle se demande si elle peut espérer l'aide d'Enedis, une aide financière, et si elle peut choisir une période d'intervention.
Alors c'est aussi une question assez complexe. On va faire très simple. À partir du moment où les arbres existaient quand il fut posé une ligne électrique, c'est le distributeur d'électricité qui est en charge justement de tous les travaux de coupe. Ça, on l'ignore souvent. À partir du moment où vous avez planté, vous, des arbres et que les feuilles, les branches viennent déjà chatouiller le câble, effectivement, c'est à vous d'élaguer. Mais lorsque c'est l'inverse, lorsque le câble électrique a été mis après la présence des arbres, c'est au distributeur de veiller à l'exécution des travaux. Donc, il prendra en charge, bien sûr, l'intégralité des travaux de coupe. Petite précision qui ne manque pas de sel, vous êtes vous-même propriétaire des coupes, donc des déchets de la coupe, sachez-le, parce que Enedis va pas s'amuser à évacuer les coupes, ça vous allez les garder,
c'est à vous de le
mais
faire.
C'était pas un
ça
drame, vous le faites, mais voilà, mais dans tous les cas de figure, renseignez-vous, car vous savez, souvent on a tendance à critiquer les grands groupes, l'eau, le gaz, le téléphone, etc. Et bien souvent, il y a des gens extrêmement réceptifs, ça n'engage à rien de prendre contact avec les responsables, ils vous renseigneront sur la meilleure méthode pour procéder. Par contre, sachez que quand il y a des interventions sur les câbles électriques ou sur les arbres, là par contre, vous ne pouvez pas choisir la période, c'est eux qui vont vous l'imposer et c'est un peu logique vu que c'est eux qui payent les travaux.
Est-il exact que certains arbres savent se protéger du feu ? C'est une question de Victor.
Eh bien oui, alors attention. De manière raisonnable, bien évidemment, ils ne pourront pas se protéger des flammes, mais ils peuvent se protéger des incendies. Deux exemples, les séquoias que l'on connaît et qui vivent aux États-Unis et qui atteignent 3000 ans, eh bien justement, ils ont produit une écorce très épaisse qui protège du feu car elle ne brûle pas, et les branches des séquoias sont en hauteur pour éviter justement que les aiguilles, eh bien, ne se consomment. Donc l'arbre a réussi ainsi à limiter les dégâts dus aux incendies, je dis bien à limiter parce que malheureusement, quand le feu est vraiment trop violent, rien n'y fait. Et puis également, j'en ai parlé il y a quelques mois, ici même, à ce micro, les cyprès. Le cyprès est capable d'évacuer dans l'atmosphère de l'eau, de la vapeur d'eau, pour réduire sa prise au feu. Réduire, malheureusement, mais pas totalement protéger.
Merci beaucoup Alain Baraton pour tous ces conseils. Je vous dis à demain.
À demain.